Sur avec vous dans le livre des Chroniques au chapitre 20, 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 1. 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 1. Le texte dit: après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux d'autres Ammonites, arrivèrent pour combattre Josaphat. On vint et informait Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatzazon Tamar, c'est-à-dire Engedi. Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Juda se rassembla pour chercher l'Éternel, et l'on vit de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se tit debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'y a-t-il pas dans ta main la force et la puissance? Nul ne peut t'affronter. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant tout peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours aux descendants d'Abraham qui t'aimaient? Ils l'ont habité. Ils t'ont bâti un sanctuaire pour ton nom, disant: s'il arrive sur nous un malheur, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous tiendrons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous t'appellerons au secours du sein de notre détresse. Tu écouteras et tu sauveras. Maintenant, voici que les Ammonites et les Moabites et ceux dont monde sert, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est écarté d'eux et ne les a pas détruits, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ta possession que tu as donnée. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons pas que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec même leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Yazaël, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Yael, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Yazaël dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel: soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont arriver par la montée de Hatzin, et vous les trouverez au bout du vallon, en face du désert de Jeruel. Vous n'aurez pas à y combattre. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez le salut de l'Éternel en votre faveur. Juda et Jérusalem, soyez sans crainte et sans effroi. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et toutes les Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel, se prosternèrent en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'une voix forte et bien haut. Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit: « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance et ses prophètes, et vous aurez du succès. » Puis il tint conseil avec le peuple et désigna des chantres pour l'Éternel, afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés lorsqu'il sortait devant l'Éternel. Et il disait: « Célébrez l'Éternel, car sa bienveillance dure à toujours. » Au moment où l'on commença les acclamations et les louanges, l'Éternel plaçait des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et ceux des monts de Ser qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se jetèrent sur les habitants des monts de Seir pour vouer à l'interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Seir, ils s'employèrent à s'entretuer. Lorsque Juda fut arrivé au poste d'où l'on apercevait le désert, ils se tournèrent du côté de la multitude et voici que ce n'étaient que des cadavres tombés à terre. Personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple virent piller leurs dépouilles. Il s'y trouvait un grand nombre de biens, des cadavres et des objets précieux. Ils s'enlevèrent tant qu'ils ne purent tout porter. Ils mirent 3 jours à pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Béraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi l'on a appelé cet endroit du nom de la vallée de Béraka jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem ayant à leur tête Josaphat partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie aux dépens de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem avec des luttes, des harpes, des trompettes, jusqu'à la maison de l'Éternel. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Amen. La lecture de ce texte, certes, est un peu longue, mais il y a différentes choses qui nous amènent ce matin encore à méditer sur l'importance pour nous de savoir faire recours à Dieu. On voit deux peuples, deux grandes nations s'attaquer à Israël. Jusque-là, ils avaient gardé la distance. C'était des peuples qui s'étaient multipliés et qui leur renommée les précédait parce que c'était des hommes qui n'avaient pas véritablement de cœur et de pitié. Ils vouaient tout à l'interdit, en effet, ils sacrifiaient tout à leurs idoles, même leurs propres enfants. Alors imaginez, si on en arrive là, quel est le regard vers un peuple qui n'est pas le sien, n'est-ce pas? Et quand, en effet, ils ont décidé de venir s'attaquer au peuple de Dieu, alors qu'ils avaient déjà dans le passé dégusté des pertes nombreuses, là, ils avaient décidé que c'était le temps de mettre fin au royaume de Josaphat. Et on voit dans ce texte que Josaphat agira d'une manière très sage. C'est la manière dont chaque chrétien devrait agir. Pourquoi ? Parce que Josaphat, face à ceux qui l'entendent, il ne commencera pas à essayer d'étudier un moyen de riposter de manière physique, personnelle, mais il cherchera son secours en l'Éternel. Il placera sa vie entre les mains de Dieu, et pas seulement la sienne, mais il amènera à cette responsabilité le peuple qui devait lui aussi se placer devant Dieu. Certes, il est important de prier les uns pour les autres, n'est-ce pas? Mais il est important, frères et sœurs, que nous puissions être tous sensibles à la nécessité de prier ensemble. Nous pouvons, quand nous nous trouvons dans des situations qui nous dépassent, et en effet, la situation qui était là, dépassait Josaphat avec son armée, il n'aurait jamais pu remporter une victoire contre ces peuples. N'a-t-il pas des moments dans votre vie où vous sentez que la situation est bien plus grande que vous? C'est trop dur. C'est impossible pour moi, Seigneur. Seigneur, comment je vais faire? C'est comme une montagne qui s'érige devant moi. Il y a bien des moments où les difficultés sont bien plus grandes que nos propres forces, n'est-ce pas? Et on pourrait commencer à étudier pour chercher des solutions à droite et à gauche. Voir comment pouvoir trouver des allégeances autour de nous. Mais le roi Josaphat savait en qui il avait mis sa confiance. Et il agira avec sagesse, puisqu'il décida de consulter l'Éternel. Ce n'est pas été son deuxième ou son troisième recours, ça a été son premier recours. La première chose auquel il a pensé, Josaphat, c'était de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Et le texte nous dit qu'il était question de chercher ensemble, de chercher la face de Dieu. Ils étaient là, dans la maison de l'Éternel, sur les parvis, nous dit le verset 5. Il y a des lieux de rendez-vous que Dieu nous donne. Il y a des temps de rendez-vous dans lesquels le Seigneur veut nous voir. Pas seulement être présent physiquement, mais davantage spirituellement. Et on pourrait dire, oui, mais je ne suis pas avec vous avec le corps, mais je suis avec vous avec l'esprit. Là, le texte me dit que les deux étaient présents. Soyons présents d'esprit, mais aussi de corps. Imaginons la nécessité pour ce peuple, en réalité, qui se voit dépassé par les situations et les circonstances, de devoir se placer ensemble devant Dieu. Il y a quelque chose qui me semble très important, c'est qu'ils cherchent la volonté de Dieu, connaître Dieu et sa parole pour vivre selon ses préceptes, pour ainsi réclamer aussi ses promesses. Est-ce que nous connaissons véritablement notre Dieu ? Parce que si on ne connaît pas Dieu, mais certainement on va chercher des solutions ailleurs. Qu'est-ce qu'on connaît de Dieu ? Que connaissez-vous de Dieu ? Il est notre secours. Très bien. Quoi encore ? Sa justice. Très bien. Quoi encore ? Sa fidélité. Très bien. Et encore ? Sa bonté. Oui, bien sûr. Quoi encore ? Amen. Heureusement qu'il est patient. Amen. Quoi encore ? Son amour. Il peut tout. Il ne manque pas de moyens, il ne manque pas de puissance, il ne manque pas d'autorité. Il sait véritablement comment résoudre le problème. Alors pourquoi ? Je me dis pourquoi ? Bien des fois, nous consultons Dieu seulement après. Après ceci, après cela. En dernier recours, Seigneur, j'ai tout essayé, je viens à toi. Josaphat nous donne une leçon là, en disant, voilà, il y a un problème, viens à l'Éternel. Le jeûne et la prière n'est pas seulement pour les moments de problème. Vous allez voir, il y a un ensemble d'enseignements dans ce texte qui est important, qui est glorieux, parce que certes, ils vont passer du moment à moment dans la prière. Mais quand on pose des questions à Dieu, est-ce que Dieu répond ? Il en est de la preuve. Mais regardez la prière qu'il a fait, Josaphat, est une prière dans laquelle il annonce tout ce que Dieu est capable de faire parce qu'il connaît Dieu. Alors quand nous nous approchons de Dieu, n'ayons pas peur de dire à Dieu, je connais ta puissance, je connais ton autorité, je connais ta bonté, Seigneur, je connais ta grâce, ton amour, Seigneur, ta fidélité, je la connais, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, que même si moi, et regardez, il dit, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Amen. Peut-être qu'en ce moment même, vous passez par un moment difficile où vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez pas comment faire. C'est trop compliqué, c'est trop grand, c'est trop, Seigneur. Alors moi, je voudrais vous encourager de la même manière que Josaphat a fait, que le peuple a fait. Gardez vos yeux sur l'Éternel. Seigneur, nous gardons nos yeux sur toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Les difficultés, les problèmes de santé nous dépassent, Seigneur, mais nous gardons nos yeux fixés sur toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous entendons des mauvaises nouvelles arriver de tous les côtés, mais nos yeux restent fixés sur toi. Celui qui se confie en l'Éternel ne sera pas confus, ne sera pas négligé, ne sera pas oublié. Alléluia ! De là l'importance, certes, on peut regarder tout et n'importe quoi. Vous savez, dans les discours qu'on tient, par ce qu'on dit, on voit de quoi on nourrit notre cœur. La Bible dira ceci, la bouche parle de ce que le cœur abonde. Si je nourris ma vie que de ce que je peux entendre et voir à la télé, frères et sœurs, je n'aurai pas beaucoup d'arguments devant l'Éternel. Hein, parce que c'est déprimant. Qu'est-ce que je veux dire au Seigneur ? Seigneur, j'ai écouté ce matin, allez, je vais le dire, BFM TV. Seigneur, ils n'ont pas arrêté de répéter ceci, cela. On est mal, on est mal, on est très, très, très mal. Où est-ce qu'on dit, Seigneur ? Certes, il y a des difficultés. Qui peut dire que ce n'est pas vrai ? Il y a quelque temps, quelqu'un me disait, vous savez, tout ça, c'est un grand mensonge. Je lui dis, vous savez, si vous aviez l'occasion d'aller à l'hôpital, vous vous rendrez compte que ce n'est pas un grand mensonge. Malheureusement, il y a des victimes de tout ça. Mais on peut s'arrêter à faire un constat. Comme dans toutes les choses, dans toutes les situations, ou autrement on peut dire, Seigneur, moi je garde mes yeux fixés sur toi. Tes promesses, elles sont pour moi. Et d'ailleurs, regardez ce qu'il va lui dire. Il va lui dire, Seigneur, notre Dieu, est-ce que ce n'est pas toi qui vas faire ceci ? Est-ce que ce n'est pas toi qui vas faire cela ? Seigneur, nos yeux s'attendent à toi. Et dans ce texte, il est question pour nous de comprendre que la prière change le cours des situations, n'est-ce pas ? Dans les Lamentations, chapitre 3, versets 54 à 57, il était dit « Les eaux ont recouvert ma tête. Je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, Éternel. Des profondeurs de la citerne, tu as entendu ma voix. Ne détourne pas ton oreille quand pour me soulager, je t'appelle au secours. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, sois sans crainte. Amen. » Vous savez, là le prophète, il se sentait dans une citerne. Qu'est-ce qu'est une citerne ? C'est un lieu où on récoltait de l'eau, où au fond, généralement, se déposait tout ce qu'il y avait dans l'eau. Et avec le temps, ça faisait une couche de boue. Au point que quand on était dedans, malheureusement, on avait du mal à bouger. Déjà, le fait de se trouver dans une citerne, ce n'est pas une chose normale, non ? Parce que si les eaux, elles montent, qu'est-ce qui se passe ? On peut nager un petit moment, mais après, compliqué. Et là, cet homme, il crie à l'Éternel. Il crie à Dieu et il sait que l'eau est en train de monter. Les eaux ont recouvert ma tête. Et je disais, je suis perdu, la situation est difficile. Mais, au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, sois sans crainte. Merveilleux, non ? Qui a besoin ce matin d'entendre Dieu lui dire « Sois sans crainte ». Qui a besoin encore ce matin, frères et sœurs, d'entendre Dieu lui dire quelque chose au fin de son cœur ? Et regardez la promesse que Dieu va faire. À un moment, il y a un homme qui va se lever et il va prophétiser de la part de Dieu. Il est question pour nous d'écouter, de croire, de s'appuyer sur la parole de Dieu avec foi. Les versets 14 à 17, il dit « Soyez attentifs, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. » Amen. Combien il est important pour nous de savoir et de placer nos difficultés entre les mains de Dieu et laisser Dieu combattre pour nous. Parce que si nous, on va se battre, je ne sais pas si on est capable de revenir du combat. On n'est pas exercé au combat. Il y a des combats qui ne sont pas les nôtres, frères et sœurs. Et on serait capable de s'y prendre main mal. Imaginez une situation tendue dans une relation. On ne dit pas toujours ce qu'il faut, non ? Ça nous arrive parfois de dire des choses qu'on regrette aussi vite. Mais une fois que c'est dit, c'est dit. Et une fois que les choses ont été prononcées, le mal a été fait. Une phrase peut être comme une espèce de caillou qui arrive. Vous savez, il y a eu un temps, on lapidait avec les cailloux, aujourd'hui on lapide avec les mots. Une phrase peut détruire une relation d'une manière incroyable. C'est pour ça que la parole de Dieu nous invite à peser nos mots, à faire attention à notre manière de parler. Et en même temps, il y a des fois où on ne sait pas de quelle manière nous y prendre dans telle ou telle circonstance. Moi, je ne peux pas examiner ce matin tous les éventuels problèmes qu'on peut avoir. Mais Josaphat, après cette parole qui a été donnée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, ça m'encourage parce que pas seulement ils ont entendu la parole de Dieu, mais ils ont élevé leur voix pour louer Dieu. Ils ne se sont pas dit « chouette, voilà, Dieu a dit qu'il se charge du problème, je rentre chez moi, c'est plus mon souci ». Nous, on a tendance, une fois qu'on sait que quelqu'un va s'occuper du problème, de retourner à nos vieilles habitudes. On aime bien retrouver notre chez-nous, tranquille, paisible. On a l'habitude de faire certaines choses et on veut y revenir le plus vite possible. Mais je vais vous dire, moi j'espère sincèrement que cette situation que nous sommes en train de traverser maintenant de plus qu'un an, ne fasse pas, ne nous permette pas de revenir à nos vieilles habitudes. Parce qu'autrement, ça voulait dire que tout ça ne servait à rien. Mais elle devrait nous pousser, frères et sœurs, davantage à être à genoux et dire « Seigneur, viens à notre secours ». Vous avez vu dans la prière de Josaphat, il cite quoi? J'ai été étonné par la liste de la prière de Josaphat. Il va citer certaines choses qui peuvent aussi nous interpeller, nous, aujourd'hui. Il est question de quand il y aurait eu des situations difficiles de revenir au temple, non? Pourquoi? Parce que s'il y avait quoi? Seigneur, s'il arrive sur nous un malheur, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous tiendrons devant cette maison et devant toi. Sommes-nous prêts à nous tenir devant Dieu? Pas seulement quand la famine, la peste, l'épée nous touchent de manière personnelle, mais aussi quand ils touchent le peuple de Dieu, où qu'il soit. Parce que vous savez, la famille de Dieu, elle est grande, non? Vous ne croyez pas? Ce qui se passe en Inde, ben c'est nos frères et nos sœurs qui sont en train de souffrir. Et je crois que je ne peux pas revenir à ma vie tranquille d'avant en me disant « chouette, à partir de, je vais pouvoir dépasser les 10 kilomètres » sans me dire « Seigneur, il y a mes frères et mes sœurs qui sont en train de souffrir. » Donc je me dois de me tenir à genoux et d'invoquer ce Dieu de la grâce, ce Dieu de la miséricorde, ce Dieu qui vient au secours et dira, Josaphat, soyez ferme dans votre confiance et l'Éternel, votre Dieu, et vous sera affermi dans votre défense. Mettez votre confiance en l'Éternel et c'est Dieu qui vous défend. C'est merveilleux, hein ? Verset 20. Soyez ferme dans votre confiance et l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermi dans votre défense. Soyez ferme dans votre confiance et ses prophètes, et vous aurez du succès. En peu de paroles, mettez la confiance en Dieu, mettez confiance dans sa parole, et vous aurez du succès, vous serez sortis de vos difficultés. Mettez votre foi en Dieu. Amen. Soyez affermis. Ne laissez pas les difficultés venir comme une espèce de vague qui vous balaye. Ne laissez pas l'ennemi vous emporter, mais gardez votre cœur. Soyez fervent et avec fermeté dans le Seigneur et laissez Dieu agir. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que cette parole est donnée? Qu'a-t-il fait le peuple? Qu'est-ce qu'ils ont fait le peuple? Dites-moi. Ils se sont félicités les uns les autres. Marc, plus de problème, rentre chez toi, tout va bien. Dominique aussi, oui, il n'y a pas de souci. Daniel, tu peux rentrer chez toi, il n'y a pas de problème. Hein, Esther, tu peux rentrer chez toi, il n'y a plus de problème. Non, ils ont loué l'Éternel. Parce que le tout, c'est pas de seulement d'avoir un Dieu qui résout nos problèmes, mais de le traiter aussi avec le respect qui lui vient et qui lui revient. Louer l'Éternel et le glorifier, c'est la responsabilité du peuple de Dieu. Il n'est pas que là pour résoudre nos problèmes, il est là pour être celui qui règne et qui prend sa place sur le trône. Et c'est à nous de le louer, de l'adorer. Ils n'ont pas fait semblant, ils ont loué l'Éternel. Et après quoi? La parole était d'y aller quand même. Oui. Ce n'est pas juste dire, Seigneur, toi tu prends nos problèmes, ok, on n'a plus rien à faire. Non. Il dit, allez-y. Vous savez, il y a des pas de foi à faire. C'est merveilleux, hein? Ah, mais si tu pouvais faire sans que je me déplace. Seigneur, il existe maintenant le télétravail. Fais la télébénédiction. La téléintervention. Maintenant, il y a des opérations qui se font par... Non? Seigneur, je ne me déplace pas de chez moi et tu fais tout. Je regarde, Seigneur. Un jour, quelqu'un me disait, vous savez, pasteur, moi, ça fait longtemps ça déjà, hein, c'est pas depuis hier. Il disait, moi, je ne vais plus à l'église, je regarde mon message le dimanche matin, à la télé, tranquille. Je sirote ma petite tasse de café, je reste tranquille en chaussant. Et je lui ai dit, le jour où tu ne vas pas bien, qui te posera la question, mon frère, comment tu vas? Le jour où tu as besoin de l'imposition des mains, tu fais quoi? Tu mets ta tête contre l'écran? Et à ton enterrement, c'est qui vient? TF1, TF2, la 6, qui? Est-ce que c'est ça que Dieu nous demande? Est-ce que notre relation avec Dieu, elle est juste une relation de consommation? J'ai besoin de Dieu pour mes problèmes? Ou est-ce que je fais comme ce peuple qui, d'ailleurs, si vous avez bien fait attention, compte tenu de la situation, tout le peuple est venu pour chercher la face de Dieu, même les tout-petits. Et moi, je voudrais vous dire que je me réjouis de voir des enfants au culte. Mais je me pose la question. Comment ça se fait qu'on ne voit pas souvent des enfants et des jeunes à la réunion de prière, à l'évangélisation? Parce que là aussi, Dieu nous attend tous. C'est là qu'on vit des expériences, c'est là qu'on grandit. Si aujourd'hui on n'apprend pas à nos enfants l'importance de se tenir devant Dieu, comment ils seront le jour où eux, ils auront besoin de se tenir devant Dieu? Parce que nous, on est de passage ici-bas, non? Oui? Êtes-vous convaincus? Alors certes, on a demandé une dérogation jusqu'à 150 ans, mais ce n'est pas dit qu'elle sera acceptée. Peut-être qu'on aura d'autres engagements à tenir dans le ciel un peu avant. Et à partir de là, on ne doit pas se dire, Seigneur, moi j'avais prévu à partir de 120 ans de transmettre le flambeau à la jeunesse. Moi je me dis que dès aujourd'hui, nos jeunes doivent prendre leur place au sein de l'Église, leur place à genoux devant le Seigneur, leur place aussi pour servir le Seigneur. Samuel, il servait dans le temple, il avait quel âge? Il était très jeune, non? Alors faisons attention à ne pas faire l'erreur de ne pas préparer l'avenir. Parce que la jeunesse qu'aujourd'hui est là, moi je crois que pas seulement est l'avenir, mais elle est déjà au présent. Et si on rate le présent, on peut oublier l'avenir. Et dans ce texte, le peuple était là et ils ont commencé à louer, à adorer Dieu. Et alors à un certain moment, il est question d'avancer. Hein, et prendre la route pour Béraka. Magnifique tout ça. Et il dit alors, ils s'assemblèrent dans la vallée de Béraka et ils bénirent l'Éternel. Pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés au point où Dieu leur a dit d'être, en effet la bataille s'était déjà faite. Est-ce que vous avez vu Josaphat sortir son épée? Est-ce qu'il y a quelqu'un du peuple d'Israël qui a sorti son épée du fourreau? Si vous lisez bien le texte, quand ils sont arrivés, la bataille était terminée. Et pourtant, je vais vous dire, ils se sont battus. Vous avez vu le texte? Ils se sont battus. Non? Vous ne le croyez pas? Verset 22. Tu peux nous mettre le verset 22, s'il te plaît? Au moment où l'on commença les acclamations et les louanges de l'Éternel, l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et ceux des monts de Seir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. La parole de Dieu nous dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les dominations qui sont dans les lieux célestes. Ils ne se sont pas battus avec l'épée, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acclamé l'Éternel. Ils ne sont pas rentrés chez eux en se disant « Allez, tout va bien maintenant, on n'a pas de problème. Josaphat, tu peux y aller tout seul. Hein. Tu es un spécialiste du combat, Josaphat, tu y vas tout seul. Tu prends tes anciens, tu prends le conseil d'administration et tu y vas. » Non, tout le peuple était là. Et ils ont ensemble loué le Seigneur. Et au moment, regardez ça, au moment où l'on commença les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades. Vous ne croyez pas qu'il y a de la puissance dans la louange? Vous ne croyez pas qu'à chaque fois que nous avons l'occasion de louer, de célébrer l'Éternel, pendant que nous on chante et on loue l'Éternel, l'Éternel est en train de régler vos problèmes? Ça devrait changer notre manière de chanter, non? On n'est plus là en train de dire « Alléluia, Seigneur, Alléluia ». On chante de tout notre cœur parce qu'on sait que Dieu est en train de régler mon problème. Quel qu'il soit mon problème, Dieu est en train de le régler. Mais moi, ce qui me reste à faire, c'est de le louer et de l'exalter. Et plus je loue l'Éternel, plus j'acclame son nom. Et plus Dieu me montre aussi sa bonté, sa fidélité. Amen. Alors ils ont loué Dieu. Très bien. Et il y a encore une autre chose qu'ils ont fait. C'est qu'après avoir loué Dieu, ils sont arrivés et ils ont vu l'armée qui venait contre eux. Ils étaient tous à terre. Et encore là, il y a quelque chose qu'on doit apprendre spirituellement. C'est à piller l'ennemi. Quand nous prions, quand nous sommes dans le jeûne, quand nous sommes dans les temps de prière, nous devons croire aussi que Dieu permet aussi que ce soit un moment de victoire. Il est question pour nous de piller des âmes maintenant à l'ennemi. Non? Si nous prions pour que Dieu intervienne dans cette situation de Covid, n'avons pas nous la responsabilité d'aller chercher les âmes perdues et leur dire, vous savez, le salut est en Jésus-Christ maintenant. L'ennemi est affaibli, l'ennemi est vaincu, mais allons piller ce que l'ennemi a toujours gardé et retenu jusque-là dans nos familles propres, non? Les membres de nos familles qui jusque-là ont été esclaves de l'ennemi, esclaves du péché, est-ce que ce n'est pas l'occasion de leur parler du salut qui est en Jésus-Christ? Au lieu de nous confiner chez nous et dire « mais moi ça va ». Moi je crois que c'est là le moment où en réalité le peuple a montré que Dieu était avec eux et pas seulement eux, ils sont rentrés, dit le texte, avec une grande joie chez eux. 3 jours, ils ont passé 3 jours à piller tout ce qu'il y avait. Amen. C'est du boulot ça, non? 3 jours. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé le 3e jour? Où est allé Jésus? La mort était vaincue, n'est-ce pas? Et il est allé réclamer les âmes de ceux qui voulaient mettre leur foi en lui. Amen. Et nous aussi, frères et sœurs, nous devons apprendre à réclamer les âmes de ceux que le Seigneur veut amener au salut. Et puisque Dieu veut amener tous les hommes au salut, ce n'est pas à nous de choisir. Apportant sa parole, apportant son message. Et le 4e jour, ils sont revenus. Et quand ils sont arrivés à Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remercié Dieu. Apprendre à louer Dieu, apprendre à bénir l'Éternel. Mais il y a une vallée. Il y a une vallée qui a retenu mon attention. C'est la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi l'on a appelé cet endroit du nom de la vallée de Beraka jusqu'à ce jour. Qui a besoin aujourd'hui de rentrer dans la vallée de Beraka? Amen. Mais il faut faire toutes les étapes. Il faut apprendre, frères et sœurs, à prendre le temps avec Dieu. Placer devant Dieu nos difficultés. Attendre la réponse de Dieu. Adorer Dieu. Continuer à combattre dans la louange, dans l'adoration, nous attendre à la main de Dieu. Et quand Dieu a réglé le problème, ne pas en rester là, marquer les consciences. Parce que d'ailleurs, si vous vous rendez compte, les consciences ont été touchées des autres peuples quand ils ont vu que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Si nous voulons rentrer dans le repos de Dieu, il faut aussi nous apprendre, frères et sœurs, à aller jusqu'au bout du combat. Autrement, le combat reprendra. On va incliner nos têtes. Et pendant que nous inclinons nos têtes, je vais inviter les frères qui sont du service de Sainte-Seine ce matin à s'approcher.